Tech & Co, le grand live du numérique avec François Sorel.
Je vous propose maintenant de découvrir une start-up issue de recherches menées au CNRS. Il s'agit de NanoMade et Olivier de Trémaudan, son président et principal investisseur, est avec nous. Bonsoir Olivier.
Bonsoir François.
Alors, vous allez nous présenter une innovation très intéressante qui permet en fait d'ajouter une fonction tactile et d'inventer des commandes sur des surfaces étonnantes. Par exemple, du tissu, du cuir, du métal. Imaginez pouvoir toucher du tissu et en même temps avoir une fonction tactile sur ce tissu. C'est ce que vous faites chez NanoMade, d'après ce que j'ai compris.
Absolument. Alors, à la base, c'est une, comme vous l'avez dit, une technologie qui est issue du CNRS de Toulouse. Donc, en fait, on a inventé une encre composée de nanoparticules qu'on va imprimer sur un support ultra fin, ultra flexible. Ça fait 200 microns. Et en fait, ce support, on va le coller sous n'importe quel type de matériau.
Dessous.
Donc, d'accord. En fait, on ne le voit pas. Il est invisible, non invasif, et quelle que soit la surface, et ça c'est très important, parce que c'est pas forcément une surface plane, ça peut être, on peut même l'intégrer à l'intérieur d'un stylo, et en fait le principe c'est que on va récupérer la pression exercée par exemple par rapport par des doigts, et du coup comme ça va créer, en fait cette encre va se déformer et va créer un effet quantique, on va pouvoir mesurer de manière exponentielle une résistance en fonction en fait de la pression qui est exercée sur le support ou sur le matériau.
D'accord. Et donc à ce moment-là, on se retrouve avec des commandes tactiles.
Exactement.
Sur n'importe quel
Type de
support.
De support. Alors il y a bien sûr le premier enjeu pour nous, c'est l'habitacle du véhicule. Supprimer tous les boutons, les lèvres-vitres, le démarreur, les boutons pour régler la radio ou accéder au tableau de bord.
Pour qu'on comprenne bien, s'il vous plaît, Olivier, parce que c'est fascinant, hein. Imaginons un tableau de bord sans boutons physiques, d'accord ? On pourrait avoir simplement des dessins pour qu'on puisse savoir où il faut appuyer, parce que on peut imaginer qu'on ait plusieurs commandes en fait sur une surface donnée, et il suffirait d'effleurer en fait cette commande dessinée pour que il y ait une action qui se fasse.
Alors tout à fait. Alors on peut effleurer, on peut swiper aussi comme un écran de smartphone, et comme c'est un capteur de force, en fait, on peut très bien imaginer
des fonctions différentes si j'appuie plus ou moins fort.
Appuyez plus ou moins fort. Et voilà, c'est tout l'intérêt de la technologie, c'est qu'en fonction de la pression, on va valider. On peut, par exemple, baisser plus ou moins vite une vitre en fonction de la pression qu'on va exercer avec le doigt, et ce complètement caché dans le design du véhicule. Par exemple, sur un bel alu brossé, on peut créer entièrement une commande qui sera totalement invisible et sensible à la force avec du swipe, tout ce qu'on a par exemple sur un écran de smartphone.
Ouais, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a même des fonctions santé, mais on va en parler dans un instant. J'aimerais que vous nous racontiez un petit peu votre histoire entrepreneuriale avec NanoMade, parce que NanoMade, vous l'avez racheté en 2019, cette société, qui était au bord du gouffre, hein, qui était en liquidation judiciaire. Qu'est-ce qui s'est passé dans votre tête? Alors, vous êtes dit, à quel moment vous êtes dit, cette boîte qui va mal, je vais la racheter?
Alors, je connaissais déjà la boîte parce que je connaissais un des business angels de l'ancienne équipe qui était un de mes amis, et j'adorais la techno. Voilà. Au début, j'y comprenais rien. Moi, je viens du monde du e-commerce. J'avais vendu ma société en 2015 dans le e-commerce, donc ça n'a rien à voir. Ceci dit, j'ai fait une école d'ingénieur, donc ça m'a servi à quelque chose.
Il restait quelques bribes de curiosité.
Exactement. Ça m'a pas servi à rien. Et quand mon associé, donc qui est le CEO Jean-Claude, m'a dit, qui était aussi actionnaire de la société, mais pas exécutif, m'a dit, NanoMade va pas bien. Regarde, est-ce qu'on pourrait faire quelque chose. Moi, j'étais dans.
Il faisait la même chose que ce qu'ils font aujourd'hui.
Alors un petit peu différemment. Mais c'est la même techno, sauf que nous, depuis qu'on l'a repris, on s'est vraiment focalisé sur des usages très précis.
D'accord.
Parce que vous imaginez, avec tous ces usages possibles, on peut, oui, le champ des possibles est,
on
est
peut infini, se disperser
et
en
on
quelque
se
sorte.
Disperse, et c'est probablement ce qui s'est passé précédemment.
C'était ça, à votre avis, la raison de l'échec, en fait, de la première génération de NanoMade?
Pour arriver à un niveau de technologie comme ça, il y a eu beaucoup d'argent investi, plusieurs millions d'euros. Après, faut partir très vite en commercialisation. Et je pense que le gap entre les deux a été un peu trop long. Et c'est là où la société se retrouve en difficulté. Et c'est à ce moment-là que je suis arrivé pour investir et relancer la structure.
Avec Jean-Claude Rassou, un ancien Motorola.
Exactement.
Avec qui vous avez repris les rênes de cette société.
Tout à fait.
Aujourd'hui, vous en êtes où? Parce que vous avez plus de 20 brevets, vous êtes classée 42e entreprise française la plus innovante, ça c'était il y a quelques années, en 2019. Vous avez, enfin 1 million d'euros ont été injectés en 2022. Vous prévoyez une levée de fonds cette année. C'est quoi la prochaine étape? Il faudrait quoi? Que vous arriviez à convaincre un constructeur automobile du bien fondé de votre technologie, c'est ça? Alors, vous vous focalisez sur l'auto là actuellement?
Tout à fait, ouais, sur l'auto et l'aéronautique. En fait, aujourd'hui, on discute avec des constructeurs, mais c'est pas eux qui passent commande directement auprès de nous.
Ce sont des équipementiers.
C'est des équipementiers, voilà. Et donc, en fait, nos partenaires sont des équipementiers.
C'est quoi? C'est des Valeo, par exemple, ou des boîtes comme ça?
Par exemple, des gens comme ça, où on travaille aujourd'hui avec un équipementier allemand pour des marques haut de gamme allemandes. Pour justement créer
ça pourrait intéresser Plastic Omnium, qui était d'ailleurs il y a quelques temps de cela.
Absolument.
Sur le plateau de Tech &
Co. Tout à fait. Je les invite à prendre contact avec nous. Et du coup, donc l'objectif, aujourd'hui, on fabrique des capteurs. On en fabrique quelques dizaines de milliers par an dans nos labos à Toulouse, que vous pouvez voir là à l'écran.
Mais ils servent à quoi ces capteurs aujourd'hui? Vous les fabriquez, vous les vendez à qui?
Alors on les vend essentiellement pour des prototypes.
D'accord.
Justement, avant de passer à l'échelle et avant de produire des millions de pièces dans l'automobile, il faut faire tout un tas de protos. Il faut aussi tester ces capteurs dans des environnements contraints, moins 40 degrés, 100% d'humidité, parce qu'un véhicule, bien sûr, doit subir ces tests-là. Et donc, pour nous, aujourd'hui, l'enjeu, c'est qu'on est des artisans. Voilà, on fabrique 10 000, 20 000 capteurs par an. Il faut qu'on passe à l'échelle, parce qu'on commence à répondre justement à des appels d'offres de très grosses quantités. Donc là,
pour il faut être prêt le jour où on appuie sur le bouton, on vous en commande un million.
Exactement.
Quoi.
Voilà, c'est ça la question. Et pour répondre, il faut être prêt. Donc c'est là où c'est un peu la quadrature du cercle. Et donc c'est pour ça qu'on va investir dans une ligne de production pour nous permettre de produire à bas coût, parce qu'on est quand même dans l'environnement de l'automobile. Il faut être capable de produire pas cher.
Produire en France?
Produit en France, ouais, tout à fait.
D'accord.
Absolument. Et l'intérêt, comme c'est des productions, on fait du light manufacturing, l'intérêt de nos technologies, puisque c'est de l'impression, hein, c'est une encre, c'est aussi de pouvoir monter des unités de production proches des équipementiers, afin de leur permettre de ne pas avoir de rupture et de pouvoir intégrer directement nos capteurs dans leurs pièces. Et ça, c'est quelque chose qui les séduit d'être au plus proche, finalement, de leur unité de production.
Voilà. Donc rappelons hein, que grâce à votre technologie, on peut rendre tactile le tissu, le cuir, le métal, le verre ou le plastique. On peut imaginer les débouchés que ça peut avoir dans le monde automobile ou l'aéronautique, comme vous le disiez. Hein. On est dans un avion, on a notre petite tablette avec notre écran, voilà, pour commander des trucs. On pourrait très bien le faire en effleurant simplement, ce qui permettrait aussi d'éviter les pannes, les choses comme ça, puisque comme ça serait intégré dans une surface robuste, en quelque sorte. Bah, il y a beaucoup moins de risques de panne et de casse, en quelque sorte. Ça a du
sens. Et c'est le cas d'ailleurs, je me souviens plus du terme technique, mais de la commande qu'on a dans l'avion, dans l'accoudoir.
Oui.
Ça casse tout le temps.
Il y a, voilà. Si ça casse pas, c'est un problème.
C'est sale, voilà, exactement. Et donc, nous, en fait, on intègre le capteur dans le plastique de l'accoudoir. Si, par exemple, on est dans une classe éco, donc, qui est quand même un plastique qui fait 4-5 mm d'épaisseur, ultra résistant. Et malgré ça, en fait, grâce à la sensibilité du capteur, en passant son doigt dessus, bah, du coup, on pilote ça comme un écran de smartphone.
Cerise sur le gâteau, on en parlait tout à l'heure. Votre technologie a des fonctions santé aussi?
Absolument. Ouais, parce que figurez-vous que ce capteur est tellement sensible que si on le met sous la mousse, par exemple, d'un fauteuil ou d'un lit, et qu'une personne va s'asseoir ou s'allonger dessus, en fait, on va être capable de repérer les micro-déformations de la mousse issues du rythme respiratoire et de la cardio-balistographie du cœur, c'est-à-dire en gros le rythme cardiaque. De là, on en déduit le HRV donc, et tout un tas de choses sur la santé de la personne qui voyage, par exemple, si on est dans un avion, ou des fonctions de well-being. On est capable, 15 minutes avant, de détecter qu'une personne va s'endormir. Et donc, typiquement, dans des business class, puisque notre technologie, on va commencer à la commercialiser auprès d'une compagnie aérienne cette année, pour les premières business class. Et donc, l'objectif, c'est d'arriver à monitorer en fait le passager pour savoir son niveau de stress, pour savoir son niveau de fatigue. Et typiquement, l'objectif, c'est d'arriver, voilà, la personne est en train de s'endormir, le siège va s'allonger directement, les lumières vont s'éteindre.
Oui, parce que ces fonctions vitales commencent s'approchent de l'endormissement.
Voilà. Et l'avantage, c'est que ce capteur est totalement non intrusif et non invasif.
Oui, bien sûr, il est complètement invisible.
Exactement, comme si on avait une Apple Watch, sauf qu'on n'a pas besoin d'avoir une Apple Watch.
C'est ça. Merci beaucoup Olivier de Trébaudant, c'est passionnant. Nanomail, merci d'être venu nous présenter tout cela. Vous en êtes le président et le principal investisseur. Merci beaucoup.